Voilà, donc depuis quelques semaines, on a commencé un peu à parler. La semaine prochaine, on parlera un peu plus du thème annuel qu'on a ressenti, mais on a parlé beaucoup de briller de la lumière de Jésus, de comment briller d'une façon claire dans nos vies, c'est-à-dire qu'on doit être transformé, sanctifié par la présence de Dieu, mais aussi de pouvoir être rempli de l'Esprit Saint. Et on est en train de faire un peu une étude vraiment pour voir comment est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit Saint. Je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas pu être là, peut-être les autres semaines, d'aller voir sur Internet ou sur notre chaîne YouTube, parce que je crois qu'il y a des points très intéressants qui nous sont donnés. La plupart de ce que je vous présente vient du pasteur Ray, donc de ce ministère Church Renewal que je suis. Et on peut le distribuer, on peut encourager nos églises aussi à travers ce travail que ce pasteur a fait pour nous encourager à être renouvelés vraiment dans notre esprit, renouvelés aussi en tant qu'église. Donc, la semaine passée, on a vu plusieurs points importants. Et aujourd'hui, on va continuer dans certains points, puis on va mettre l'emphase sur un des points concernant les dons de Dieu, les dons de l'Esprit que le Seigneur veut nous donner. Donc, si nous regardons le premier point, il est dit afin de remplir une vocation ou une tâche particulière. Hein? On parlait justement comment que Dieu nous utilise dans le travail, c'est aussi une vocation aussi dans le travail. Dans l'Ancien Testament, on voit comment que Dieu a révélé au prophète Samuel qu'il devait oindre justement Saül avec de l'huile pour qu'il devienne le premier roi d'Israël. Il est dit justement que l'Esprit de l'Éternel viendra sur Saül, qui va prophétiser. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit comment que le Saint-Esprit agissait déjà sur des personnes spécifiques pour un rôle spécifique. Le Saint-Esprit n'était pas forcément là à tout le temps, mais il était là sur certaines personnes dans des moments clés. Peut-être qu'on peut distribuer aussi des petits papiers en arrière pour des notes, parce qu'on va utiliser beaucoup plusieurs versets bibliques, parce qu'on veut voir comment que la Bible est remplie de références en rapport de comment être rempli de l'Esprit de Dieu jour après jour. Donc, dans le Nouveau Testament, on voit comment que le Saint-Esprit est maintenant là de façon permanente dans la personne qui s'est repentie de ses péchés, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. On voit comment dans les circonstances, comment lorsque l'Église grandissait tellement vite que certains problèmes sont survenus. Ouvrons notre Bible dans Actes chapitre 6, versets 1 à 3. Actes chapitre 6, versets 1 à 3, qui dit: À cette époque, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'assemblée, l'ensemble des disciples, et dirent: Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes à qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Ce que les apôtres ont vu, c'est que l'Église a tellement grandi vite que c'était difficile à un moment donné de pouvoir gérer toute cette nouvelle Église. Aussi, c'est sûr qu'il faut se rappeler qu'avant, bon, maintenant, l'Église est composée de gens qui viennent des Juifs et des non-Juifs. Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas vraiment de cohabitation entre eux. Mais à grâce à l'amour de Dieu qui s'est répandu à travers leur conversion, maintenant, ils sont ensemble. Mais c'est clair qu'il y a quand même encore peut-être des certains défis de cohabitation, d'unité aussi ensemble. Et voilà pourquoi que les apôtres ont dit: Non, mais il ne faut pas que nous, on prenne ces charges-là, pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais on a besoin de rester, nous, dans la prière, dans la parole. Donc il dit: Choisissez des gens, c'est quoi les critères? Remplis d'Esprit Saint. Il ne dit pas choisissez des chrétiens qui s'est converti il y a peut-être un mois ou 2 mois ou 6 mois ou comme ça. Non, il dit remplis d'Esprit Saint et de sagesse. L'appel que Dieu nous donne ne correspond pas forcément à ce que nous sommes, et nous avons donc besoin de plus de Dieu pour remplir la tâche. Parce que c'est vrai que peut-être devant ce que nous devons accomplir, c'est difficile d'aller par nos propres critères, par nos propres dons peut-être ou habiletés que nous avons. Et voilà pourquoi que le Saint-Esprit nous équipe pour accomplir la mission qu'il veut nous confier. Et ça ne dépend pas de nos capacités intellectuelles, ça ne dépend pas même de nos dons naturels que nous avons, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit qui va nous donner cette sagesse d'accomplir ce travail. Si nous regardons le deuxième point, être rempli de l'Esprit est nécessaire afin de retrouver la plénitude perdue à cause du péché. J'aime bien ce terme, la plénitude. Le Saint-Esprit est là pour nous donner cette plénitude, cette joie, cette vie en nous quand on est avec le Seigneur. Mais à cause du péché, le péché qui habite en nous, même si nous sommes changés, transformés par le Seigneur, nous restons de nature pécheresse. Et ce péché nous sépare de notre Créateur. Ésaïe 59, verset 2, vous pouvez l'écrire à Ésaïe 59, verset 2, qui dit: Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Donc, on voit que dans ce chapitre 59, rappelez-vous qu'on a étudié l'année passée, durant toute l'année, ce chapitre d'Ésaïe 58, où on voit où Dieu va dire à Ésaïe, va leur dire qu'est-ce que c'est le véritable jeûne. Voici comment vous devez vous comporter devant le Seigneur. Il ne suffit pas juste de faire des gestes, il ne suffit pas juste de faire un rituel, il ne s'agit même pas de faire tout le protocole d'être en jeûne. Mais si vous êtes méchant dans votre cœur, si vous vous querellez, si vous êtes en révolte les uns avec les autres, votre jeûne que vous faites ne vaut rien. Et ce chapitre Ésaïe va leur dire, mais c'est justement à cause de leur faute qui les sépare de votre Dieu. Voilà pourquoi qu'on a besoin d'être renouvelé, régénéré à travers l'Esprit du Seigneur. Nous savons que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque on s'est converti, lorsque justement on a accepté le salut dans notre vie, qu'on a demandé le pardon de nos péchés. L'Esprit du Seigneur est venu sur nous. Mais si nous péchons, alors le péché va rompre la communion avec l'Esprit. Et le psaume 51, c'est le psaume que David a écrit suite au péché qu'il a eu avec Bathsheba, avec cette femme qu'il a vue, il a fait en adultère. Et voici que lorsque le prophète Nathan va venir lui dire, ben voici ce qui se passe, voici ton péché. Il donne verset 11, chapitre 5, psaume 51, verset 11. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Donc David savait que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il sait que lorsqu'il péchait, l'Esprit de Dieu va s'éloigner parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, la dernière fois, on avait vu, ou il y a peut-être quelques semaines, comment qu'on peut pécher contre l'Esprit Saint de trois manières principales. Le premier point, c'était attrister l'Esprit. Même si l'Esprit de Dieu est en nous, nous pouvons l'attrister à travers ce que nous faisons. Regardez dans ce qu'il est dit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 30 à 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc nous avons le Saint-Esprit en nous, mais il est attristé souvent par nos agissements qui sont cités dans ce verset 31. Le Saint-Esprit est attristé parce qu'il sait que nous perdons la communion avec lui et de toutes les bénédictions qui vont en découler, parce que nous avons penché vers le péché. C'est la même chose aussi lorsque nous offensons des gens. Lorsque nous faisons du mal à une personne, ça rend la communion avec cette personne, ça rend des fois la relation plus difficile. Le deuxième point qu'on voit, c'est éteindre l'esprit. Dans ce deuxième point, on aborde l'extinction de l'esprit d'un point de vue intentionnel et pécheur. Le premier, on peut attrister parce que, bon, la colère, des fois, ça vient même avant qu'on réfléchisse. Mais ce deuxième point, c'est parce que c'est intentionnel de notre part. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 22. Il dit: N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Donc, il dit: N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. C'est quoi les prophéties? Ce sont toutes les paroles que Dieu a données à travers des hommes pour pouvoir justement avertir les hommes de leurs péchés, pour leur montrer peut-être la direction à suivre, la volonté de Dieu. Même si la plupart de ces prophéties se trouvent dans l'Ancien Testament, elles sont encore valables pour nous aujourd'hui. Et lorsque on les lit, mais on ne tient pas compte de ces prophéties, c'est comme si on méprise. On éteint l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu veut nous convaincre, veut nous dire quelque chose à travers ses prophéties, mais nous, on regarde ailleurs. Donc, nous devons faire très attention de ne pas attrister le Saint-Esprit par nos comportements et nos péchés. Mais nous devons faire encore plus attention d'éteindre le Saint-Esprit en ne faisant pas attention à ce qu'il veut nous dire à travers les prophéties, à travers les paroles qui nous sont données dans sa parole, dans la Bible. Mais il y a une autre façon, prochain dia, encore plus dure en rapport avec le Saint-Esprit, c'est de résister à l'Esprit de Dieu. Les Écritures parlent également d'une désobéissance plus profonde et endurcie qui entraîne un jugement sévère. On le voit dans l'Ancien Testament que lorsque les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu, la conséquence est que ça les a amenés à ce que le Saint-Esprit se retourne contre eux. Regardez Ésaïe chapitre 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10 qui dit: Cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi, il a lui-même combattu contre eux. Donc, si le Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament, à cause de la révolte du peuple de Dieu, s'est retourné contre eux, aujourd'hui que nous avons l'Esprit de Dieu jour après jour, en tout le temps en nous, si nous résistons à l'Esprit de Dieu, il peut aussi se retourner contre nous. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop entendre ça là, de la part, peut-être, en tant que chrétien. On vit tellement dire, ah, ben, on vit sous la grâce de Dieu, Dieu est plein d'amour, plein de bonté. C'est vrai, Dieu est prêt à nous pardonner. Mais son esprit ne cohabite pas avec le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec une résistance que dire, Seigneur, je veux te suivre, mais moi, je veux faire quand même à ma façon. C'est moi qui vais faire ma propre volonté. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi la richesse, ou donne-moi tout ce que j'ai besoin, mais c'est moi qui conduis ma vie. Réfléchissons parce que ce verset est dur, mais il peut encore agir encore aujourd'hui. Si nous continuons, comment être rempli du Saint-Esprit? On arrive aussi au point afin de recevoir les dons de l'Esprit. Dans son serment de la Pentecôte, donc on a lu ces derniers temps, Pasteur Herman l'a encore cité il y a quelques semaines, Pierre a cité les prophéties, les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient dit que lorsque l'Esprit serait répandu, comme ce le fut cas à la Pentecôte, leurs fils et leurs filles prophétiseraient. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. On peut le voir dans Actes chapitre 2, versets 17-18. Donc Paul dit aux Corinthiens que ces dons étaient accordés par l'Esprit Saint pour le bien commun, pour le bien de l'Église. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 qui dit: En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Donc le Saint-Esprit donne des dons particuliers à chacun, comme on l'a prié ce matin à travers ce texte de 1 Corinthiens 12. Non pas pour se vanter. Dieu ne nous donne pas des dons pour se vanter ou pour se mettre en avant, mais pour le bien de l'Église tout entière. Et c'est vrai que c'est tellement malheureux de voir tellement de chrétiens, tellement de prédicateurs, d'évangélistes, de pasteurs qui ont mis ces dons qu'ils ont reçus en avant pour se faire un ministère, pour se faire un nom, pour se faire s'enrichir même financièrement aux dépens des autres. Le Saint-Esprit va aussi agir envers eux. Et on a pu voir comment que même des personnes qui avaient des ministères incroyables avec le Seigneur, comment que le Seigneur les a retirés d'une façon drastique. Parce qu'ils déshonoraient le nom de Dieu à travers ce qu'ils faisaient. Dans l'Église locale, le Saint-Esprit permet que les différents dons soient donnés et se manifestent pour le bien et l'édification de l'Église. Regardons la suite du verset dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissances. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, seul le même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. À un autre, soit une activité prophétique. À un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. Il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre du seul et même Esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas un don qui est plus grand que l'autre. Même s'il serait vrai qu'il y a certains dons qui sont plus visibles, c'est clair que celui qui est devant la chair à parler, on le voit. Celui qui chante les louanges du Seigneur, on le voit aussi plus facilement. Mais tous les dons, autant pour le discernement, la sagesse, autant celui qui reçoit une dose de foi plus grande, sont dans la même équilibre. Et c'est le Saint-Esprit qui choisit quel don à donner à qui. Et ce n'est pas nous qui désirons avoir tel don. Souvent, on aimerait avoir tel don. je vous parlerai tout à l'heure d'une petite expérience de moi-même. Donc, la Bible nous dit que chaque croyant a reçu au moins un don spirituel. Regardez 1 Pierre 4,10, notez-le, 1 Pierre 4,10 qui dit: Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Donc, le Seigneur donne ses dons afin de nous faire grandir en tant que personne qui a reçu la grâce de Dieu, tout comme il donne des dons pour le bien de chacun et de son Église. Ce verset, justement, nous montre que le Saint-Esprit ne distribue pas tous les dons à une seule personne, mais à chacun selon son bon vouloir et selon l'appel que Dieu a sur la vie de la personne. Et Pierre va redire que ce don reçu du Saint-Esprit, le chrétien doit l'utiliser pour servir son prochain, comme un bon gérant, comme quelqu'un qui reçoit la tâche d'être gérant, par exemple, d'un magasin. Et que cette personne va faire tout faire son honneur à son maître ou à son propriétaire de la tâche qui lui est donnée. Donc nous sommes invités à exercer les dons que nous avons reçus comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Certains de ces dons peuvent être des dons naturels, comme par exemple la musique. Donc recevoir un don n'est pas basé sur un mérite quelconque ou sur un critère humain ou selon même ce que l'Église va choisir. Mais c'est l'Esprit qui donne pour le bien de tous et de l'Église. Le critère de l'Esprit pour nous donner des dons correspond à notre appel, à notre mission. Et j'aimerais vous parler justement parce que tout au début de notre ministère, j'ai fait de la musique un peu, et j'avais toujours envie de jouer soit du piano ou de la guitare. J'avais commencé, puis j'avais beaucoup de difficultés. Puis je me rappelle que je priais, dire: Seigneur, donne-moi ce don de la musique pour que je puisse conduire la louange. Je sentais qu'il fallait que j'aie ce don de la musique pour pouvoir faire la louange. Puis j'imaginais plein de scénarios devant la foule, je veux dire, à louer le nom du Seigneur et comme ça. Puis c'est peut-être des bonnes choses, mais pendant longtemps, ce désir est resté en moi et comme ça. Le Seigneur m'a pas donné le don de la musique. J'avais un don de la musique, mais pas sur là-dessus. Mais j'ai réalisé comment que Dieu donne selon lui. Des fois, j'étais jaloux de voir que une personne, sans forcément d'avoir beaucoup de formation, était capable de jouer du piano, de la guitare et de pouvoir louer le nom du Seigneur. Un qui m'impressionnait toujours, c'était Gaston. Hein. Gaston, quand il arrivait, il ne jouait pas de guitare, là. Et puis, en quelques semaines, quelques mois, il a conduit la louange avec la guitare et comme ça. Et c'est vrai qu'on pourrait être jaloux pour dire: Mais Seigneur, moi, j'aimerais tel don parce que lui, je trouve qu'il est plus intéressant et comme ça. Mais on doit accepter que justement que Dieu nous donne les dons pour pouvoir l'utiliser dans l'Église, non pas pour notre nom, non pas pour notre gloire, mais pour la seule gloire du Seigneur. Donc même si on voit des chrétiens, même de renom, qui utilisent des fois le don que le Saint-Esprit leur donne pour le bien de lui-même ou pour se montrer devant les autres, alors cette personne est dans l'erreur et il n'est pas inspiré par le Seigneur. Je lisais un article il y a pas très longtemps, comment que un influenceur chrétien dénonçait qu'aux États-Unis, de grands noms, des chanteurs, des artistes chrétiens, le but, eux, c'est de simplement de sortir une chanson qui va être à la mode pour gagner plus de 1 million de dollars. Donc, il y a des artistes chrétiens avec tout le YouTube et comme ça, ils peuvent gagner jusqu'à 1 million ou plus de dollars sur une chanson chrétienne. Et il disait comment que ces artistes, le but, c'est pas vraiment de louer le nom du Seigneur, c'est de trouver la mélodie, le rythme, les paroles pour éblouir les autres et pour gagner de l'argent. Alors il y a des dons naturels que nous recevons ou que nous développons avec le temps. Le Seigneur m'a donné le don plus justement du côté du travail manuel et comme ça, et non de la musique. Et le Seigneur désire que nous l'utilisions pour le bien de tous et pour glorifier Dieu. Et il y a aussi les dons spirituels, comme on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, il faut qu'on explique qu'est-ce que c'est les dons spirituels. Parce qu'il y a beaucoup peut-être on va dire, de différentes interprétations qu'on entend jour après jour dans nos églises. Alors, comme Paul le dit, nous ne devons pas être dans l'ignorance ou ne pas savoir comment utiliser les dons qui nous sont donnés par le Seigneur. Donc, le pasteur Ray de Church Renewal dit que le don spirituel est toute capacité qui est donnée aux croyants et qui est habilitée par l'Esprit Saint afin que l'Église puisse mener à bien sa mission. Toute capacité qui est donnée aux croyants et qui est donnée aux croyants et qui est habilitée, qui est comme poussée encore par le Saint-Esprit pour que l'Église puisse à bien mener sa mission. Il faut que ce don de l'Esprit ou ce don naturel puisse servir toute la communauté, mais que le don spirituel est avant tout pour l'Église. Le don naturel peut être pour le bien du peuple, pour encourager les autres, mais le don spirituel est avant tout pour l'Église, pour édifier l'Église. Et on va voir justement que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs passages où qui justement Paul principalement et Pierre aussi vont donner toute une liste de différents dons. Et ces différents dons spirituels, il y en a plusieurs qu'on appelle aussi des dons surnaturels. Par exemple, la prophétie, la guérison, les miracles, le discernement des esprits et les langues, on dit que c'est des dons surnaturels que Dieu donne des fois à un moment donné à une personne. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a cinq places où justement on voit les différents dons. Notez les différents lieux. Romains chapitre 12, versets 6 et 8. Paul va parler du don de la prophétie, du service, du ministère d'enseignement ou d'encouragement. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, Paul va encore dire le don du mariage ou du célibat. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 10, il est parlé de paroles de sagesse, de connaissance, d'une grande foi, don de guérison, de miracles, discernement des esprits, etc. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, on parle des cinq ministères dans l'Église, les apôtres, les prophètes, les docteurs, le don de guérir, de gestion. Non, c'est plutôt dans Ephésiens 4, 11 qu'on voit les cinq ministères dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Dans 1 Corinthiens 12, 28, on voit apôtres, prophètes, docteurs, mais aussi le don de guérison, le don de gestion, l'intendance. Et dans 1 Pierre 4, verset 11, Pierre va dire le don de la prédication, le don de gestionnaire. Donc, certains de ces dons spirituels énumérés comprennent des talents que les non-croyants auraient également reçus de Dieu. Par exemple, il y a des très bons enseignements, il y a des très bons gens qui administrent, qui aident ou font preuve de miséricorde. Donc, on peut voir que même des non-croyants peuvent recevoir des dons du Seigneur. Même si peut-être eux ne savent pas qu'ils servent Dieu à travers cela, mais on voit tellement de gens qui ont tellement de grands cœurs pour servir les autres. Et ce sont aussi des dons que Dieu veut utiliser. Les dons spirituels ne constituent pas un groupe d'activités qui est limité, qui est défini dans le Nouveau Testament. Donc, ni Paul ni Pierre vont dire que ce sont juste ces dons énumérés dans ces différentes listes qui sont des dons spirituels. Il n'y a aucune raison de supposer que le total de ces listes représente un catalogue exhaustif de tous les dons spirituels. Certains disent, s'ils ne sont pas dans ces cinq chapitres, ce n'est pas des dons spirituels. Une autre raison de penser que Paul aurait pu dresser des listes beaucoup plus longues s'il avait voulu est le fait que certains de ces dons sont énumérés de plusieurs expressions différentes. Par exemple, le don de servir, on le voit dans le Romains 12, ou le don d'aider dans Corinthiens 12, 28, prendront de nombreuses formes différentes dans des situations ailleurs. Donc, ce que de toute évidence, Paul ne veut pas nous faire croire que les dons sont limités et indéfinis. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Charles Wesley, ça c'est le frère de John Wesley, celui qui a fondé l'Église méthodiste. Charles Wesley était un artiste et il a composé plus de 6500 hymnes, qu'on chante encore certains, même qui sont très reconnus. Mais ce don, au même titre que le don d'évangélisation de son frère John, sont des dons spirituels. Pourtant, la composition d'hymnes ne figure pas dans aucune des six listes du Nouveau Testament. Donc, Dieu nous donne une variété de dons. L'Esprit nous donne une variété de dons pour être une Église en bonne santé. Et que tous ces dons, qui sont perceptibles et moins perceptibles, sont absolument essentiels. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 et 6 dit, il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Pour que les talents aient ce type d'effet sur le royaume de Dieu sur terre, ils doivent être spécialement habilités par l'Esprit Saint, puis dirigés par lui pour l'accomplir pour la seule gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Donc, Paul nous dit que l'Esprit les distribue comme il entend. Et c'est le Saint-Esprit qui les donne à chaque croyant, et ce n'est pas juste une personne qu'on a dit qui reçoit tous les dons. Dans le chapitre 12 du 1 Corinthiens, Paul va expliquer avec l'exemple du corps que chaque membre a sa fonction dans le corps, et que nous ne sommes pas tous des bras, que nous ne sommes pas tous des jambes, mais chacun a une particularité pour faire fonctionner le corps entier. Donc, lorsque l'Esprit Saint a été répandu à la Pentecôte, que dit Pierre dans son discours devant la foule? Il dit que l'une des caractéristiques a été une distribution généralisée des dons spirituels à tous les gens. Comme il a dit, il a cité l'Ancien Testament. Il a dit fils et filles, jeune homme et vieillard, serviteur et servante. Donc il donne de dire que tout le monde dans le royaume de Dieu peut recevoir les dons spirituels. Et il est vrai que l'apôtre Paul nous demande de désirer, de rechercher les dons spirituels. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il dit: Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. On pourrait dire, mais Paul se contredit un peu, parce que c'est vrai que la traduction en français ne correspond pas vraiment à ce que Paul voulait dire, dans le sens qu'il ne dit pas aspirer aux dons les meilleurs en cherchant les dons qui sont plus visibles ou qui sont peut-être meilleurs devant les autres. Dans ce verset, Paul s'adresse à l'Église entière et non pas à un individu. Car si on regarde la forme grammaticale du texte d'origine, donc dans le grec, le verbe est au pluriel. Donc ça démontre que Paul va encourager l'Église tout entière à aspirer aux dons les meilleurs. Donc c'est comme il dit, aspirer aux dons les meilleurs en tant qu'Église. Puis en tant qu'Église, nous sommes appelés à chercher les dons spirituels que le Seigneur nous donne pour pouvoir glorifier son nom, pour l'édification de son corps. Et voilà pourquoi qu'il dit, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Donc, ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. On connaît très bien ce chapitre qu'on appelle souvent le chapitre de l'amour. Et c'est intéressant de voir comment que Paul, dans 1 Corinthiens 12, va énumérer toutes sortes de dons spirituels, va dire, aspirez à cela. Mais voici ce qu'il dit dans les premiers versets de 1 Corinthiens 13. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, que j'ai reçu ce don. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, je peux recevoir le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons que même dans toute sa plénitude, la foi peut transporter. Ouais, que tous les secrets, je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Même si j'ai le don de la prophétie, même de la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Mais si même je sacrifierais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc même si nous avons les meilleurs dons dans l'Église, s'ils ne sont pas accompagnés dans l'amour, et par l'amour de Dieu, alors ils sont en vain. Voilà pourquoi que justement, on ne peut pas prendre les dons spirituels que Dieu nous donne, que l'Esprit de Dieu nous donne, pour se vanter nous-mêmes, pour pouvoir peut-être se glorifier devant les autres, pour pouvoir même faire peut-être un certain business dans le ministère. Parce que là, on n'est pas en train de développer l'amour les uns vers les autres. On n'est pas en train de démontrer l'amour de Dieu à travers les gestes ou les paroles que nous disons. Et c'est là qu'on peut mesurer si vraiment les personnes qui reçoivent ces dons spirituels, si elles sont vraiment remplies de l'Esprit Saint et si elles agissent par leurs propres autorités. Voilà pourquoi que justement les apôtres ont dit, trouvez cette personne remplie de l'Esprit Saint et remplie de sagesse. On va leur donner une tâche importante aussi au sein de l'Église. Voilà pourquoi l'importance de l'amour de Dieu et des uns des autres. Donc, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on fait, tout ce que même peut-être que je prêche, tout ce qu'on peut apporter comme discernement, comme amour, comme bien, s'il n'y a pas l'amour derrière qui encourage, qui le font, alors c'est en vain. Alors, pour terminer, rappelons-nous ce qui est important. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12. Notez ce verset qui est très important. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. Que nous puissions voir cette semaine, peut-être pour certains, peut-être le don spirituel, il est connu ou reconnu. Et nous désirons dans cette année d'encore plus développer justement l'Esprit Saint en nous. Et comme on parle beaucoup de l'Esprit Saint, comment être rempli de l'Esprit Saint? Et l'Esprit Saint, justement, va travailler à travers les dons qu'il nous donne. Voilà pourquoi qu'on veut encourager chaque personne dans l'Église à croire que Dieu la place dans l'Église pour pouvoir édifier l'Église à travers un don. Que ce soit un don naturel, que ce soit un don spirituel. Alors, nous ne devons pas prier comme je faisais, Seigneur, donne-moi le don de la louange, du piano, que je puisse en quelques semaines apprendre le piano pour pouvoir diriger les gens dans la louange. Mais Seigneur, que ton esprit me donne le don pour l'édification de mes frères et sœurs, pour le bien commun de chacun, et que je puisse les avoir en abondance. Même si nous sommes une petite église, même si nous sommes peu nombreux, c'est vrai que peut-être certaines personnes font beaucoup de choses dans l'église, et on est très reconnaissant de cela. Mais chacun de nous, on est appelé, quel que soit notre cheminement avec le Seigneur, de pouvoir dire, Seigneur, tu me places dans l'église, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je me rappelle souvent quand on avait Suzanne Armour avec nous, comment que souvent je l'encourageais parce que elle nettoyait les toilettes et comme ça, et des fois elle me disait comment que c'était pas mal de sale, surtout des fois bon avec les églises qu'on louait, etc. Et je disais, mais c'est important ce que tu fais. Je veux dire, c'est peut-être un don qui n'est pas trop apprécié, mais tout le monde aime aller aux toilettes quand c'est propre, hein. Donc, je crois que tous ces dons de nettoyage, d'entretien, ou même de faire le service Internet et d'autres choses, de placer les chaises, ce sont des choses qui nous sont données pour pouvoir remercier, louer Dieu pour glorifier son nom. Alors, courbons notre tête maintenant. Et que nous puissions dire, Saint-Esprit, viens, viens m'éclairer, viens encore me confirmer ce que tu veux pour moi. Tu me places dans un travail pour que je sois ton témoin. Tu désires qu'à travers le travail, les heures que je passe au travail, je puisse être ce témoignage, cette lumière qui brille. Le Seigneur nous place aussi auprès des personnes, pour que justement on puisse les aider, les soutenir, les fortifier, peut-être apporter une parole de sagesse, de discernement par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à un service d'aide. On peut avoir ce don de service qu'on donne avec gentillesse, avec amour, de notre temps, de notre argent pour les autres. Peut-être que c'est le don de la foi, d'avoir une foi plus grande que peut-être que les autres pour faire des choses incroyables pour le Seigneur. On le voit. Il n'y a pas un don qui est plus grand que l'autre. Nous faisons tous partie du corps du Christ. Chacun a son rôle pour le bien du commun, pour l'édification de l'Église. Seigneur, on te remercie pour ce rappel que nous pouvons être remplis de ton esprit. Tu désires que vraiment nous puissions avoir ton esprit en nous, mais qu'il puisse faire un travail en nous. Ne permets pas que nous puissions t'attrister par nos comportements, que nous puissions même, Seigneur, s'éloigner de l'esprit parce qu'à cause de nos agissements, à cause de peut-être nos têtes dures, à cause de nos façons de faire les choses, que nous ne puissions pas résister à l'esprit de Dieu, mais qu'on puisse continuer d'être transformés, renouvelés, remplis de ta présence pour que, Seigneur, nous puissions vivre cette plénitude, cette joie, cette vie entière que tu veux nous donner. Seigneur, tu nous as placés au sein du corps Christ dans une église locale pour pouvoir te servir, pour pouvoir amener, Seigneur, ce que tu nous as donné. Permets que, Seigneur, notre Église, l'Église Carrefour de Saint-Rémy, puisse honorer chaque don, que ce soit des dons naturels, que ce soit des dons spirituels, qu'on puisse les honorer, qu'on puisse, Seigneur, les utiliser pour ta seule gloire. Seigneur, on a besoin de voir ton Église remplie de ton esprit, qui va rayonner dans l'Église, mais qui va rayonner à l'extérieur. Voilà pourquoi que Seigneur, on a besoin encore d'une touche spéciale de toi, pour qu'on puisse saisir que Seigneur, tu nous donnes une vocation particulière à chacun de nous. Qu'on soit ici dans l'église comme ce matin, mais qu'on soit dans le travail, qu'on soit dans notre famille, qu'on soit dans notre voisinage, tu nous appelles à être tes témoins. Tu nous appelles à te servir pour le bien commun, pour encourager les gens, pour les édifier, pour leur montrer la voie, le chemin à suivre vers toi. Alors, je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, en salle, comme ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube, que Seigneur, tu puisses les éclairer, tu puisses continuer, Seigneur, de les renforcer dans les dons que tu veux leur donner, dans les habiletés que tu veux leur apporter, pour que, Seigneur, ils puissent te servir là où tu les places et qu'ils soient cette lumière, qu'ils soient ce sel que nous avons besoin, Seigneur, pour briller pour ta seule gloire. Nous te remercions, on te loue, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous habites. Et maintenant que nous allons bientôt nous quitter, que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, reste, demeure sur nous jusqu'à ton retour et qu'on puisse être dans la joie de te servir. Nous te prions ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.